Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Des conditions de détention indignes alimentant l'insécurité faisant obstacle à la réinsertion des détenus, voilà en quelques mots la teneur du rapport de la contrôleure des prisons Adeline Hazan sorti il y a quelques jours. Un rapport qui fait suite au plus important mouvement de gardiens de prison mené en France depuis un quart de siècle pour leurs conditions de travail et de sécurité. S'il est heureux que la prison fasse la une de l'actualité tant le chantier sur ce sujet est immense, il manque peut-être à ce dur tableau que soit fait mention d'une petite révolution en cours dans le monde carcéral et judiciaire, le développement de la justice restaurative, une démarche complémentaire de la justice pénale. Explication. Cette émission Vivante Église ce matin, donc à la découverte de la justice restaurative, avec autour du plateau Benjamin Sayous. Vous êtes docteur en droit et directeur de l'Institut français pour la justice restaurative. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre-Yves Révillon qui est en plateau avec nous, qui est ancien aumônier de prison et qui intervient dans cette antenne de Radio Présence en d'autres circonstances. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais en introduction, les prisons font souvent la une, souvent pour des raisons terribles, puisque on connaît la situation des prisons en France. Et il y a comme à l'intérieur de ça peut-être une bonne nouvelle dont on parle peu, qui est la justice restaurative. Benjamin Sayous, je propose qu'on vous allez nous présenter peut-être en quelques mots ce qu'est la justice restaurative, et après on écoutera un extrait d'un film qu'on peut trouver sur votre site internet et qui peut permettre de lancer le sujet.
D'accord. Alors la justice restaurative, c'est vraiment un espace de rencontre entre les personnes victimes d'une infraction et les auteurs d'une infraction. L'idée, c'est qu'ils puissent se poser des questions, essayer d'y répondre ensemble, parce qu'à l'issue du procès, très souvent, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas forcément résolues par le procès pénal. Le procès vient répondre à des questions très factuelles sur la commission des faits, sur la culpabilité, mais sur toutes les répercussions sur le plan personnel, familial, social, parfois même culturel, des personnes ne sont pas forcément abordées, il n'est pas fait pour ça. Et la justice restaurative va permettre à ces personnes de s'adresser directement les questions.
Alors,
fondamentalement, c'est ça.
On vous entend pas très bien, donc je propose justement, on va lancer l'extrait et puis on va essayer d'établir une meilleure connexion. C'est un film donc qu'on peut trouver sur votre site, où on entend tout à la fois des personnes qui ont été victimes et des agresseurs et qui disent les bienfaits qu'ils ont retirés de cette démarche de la justice restaurative, et on retrouve tout de suite après.
Il y avait eu un jugement de cour d'assises qui, non, ça m'a pas apporté des réponses. C'est-à-dire que ça a juste posé les choses en disant: ok, vous êtes victime. Il est coupable, vous êtes victime. Il n'y a pas eu d'explication derrière. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu les explications que j'attendais. Ça ne m'a pas expliqué le pourquoi, ça ne m'a pas dit je regrette, ça ne m'a pas dit pardon. J'ai rien eu de tout ça.
Moi, maintenant, ça fera 18 ans cet hiver que c'est arrivé. Et tout est encore écrit dans ma tête comme si c'était hier. Le meurtrier de mon fils m'a pris 20 ans. Nous, on a pris perpète.
Moi, j'avais besoin de comprendre, de voir qui pouvait être et qu'est-ce qu'il faisait qu'à un moment donné, dans une vie, on en vient à briser d'autres vies.
Si j'y suis allé, c'est pour pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur, des choses que j'ai pas pu dire.
Au début, il fallait que je raconte pourquoi j'étais en prison, comment j'étais rentré en prison et tout ce qui s'est passé autour de ma... mon affaire.
J'ai vu des personnes... des personnes sincères qui n'avaient pas pu avoir de réponse de la part d'un système. Une, c'était surtout pourquoi. Et une autre, c'était un problème de reconnaissance, parce qu'il y a eu non-lieu. J'espère leur avoir apporté une réponse.
La victime a toute sa place.
Là, je pouvais dire tout ce que j'avais à dire. Ma colère, ma souffrance, ma frustration, mes questions. J'avais le droit de tout dire.
Quelque chose a bougé, oui. C'est important à dire. Quelque chose a bougé.
J'avais peur, par contre, pour les victimes. Envers eux, puis vu que c'est des victimes, et moi, je suis la personne qui a fait en sorte aujourd'hui, ils sont là. J'avais peur qu'ils se vengent contre moi. Mais ils étaient là pour chercher une réponse. Et moi aussi, j'étais là façon pour les aider en même temps, mais en aidant moi-même aussi.
Moi, j'ai pu vraiment aller au bout de ce que j'avais à dire. Et ça a été pour moi un moment fort, bon, au niveau de mon ressentiment Et puis après, de l'apaisement, parce que j'ai pu leur dire exactement ce qu'une victime ressentait.
C'est à faire, réellement, sincèrement. Ça aide à fermer une porte. C'est important.
Voilà, cette vidéo qui continue, hein, de présentation qu'on peut trouver donc entre autres sur votre site internet, qui donne un petit peu le ton. Benjamin Sayous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout est né en fait, cette démarche si spéciale et si voilà nouvelle ou étonnante, peut-être surprenante ou choquante même pour certains, de faire se rencontrer. Alors il faut le dire que c'est pas les victimes et les agresseurs directs, hein, des gens qui ont été concernés par des affaires mais qui sont pas impliqué dans la même affaire. Comment cette idée étonnante est née, Benjamin Sayous ?
Bien, en fait, ça vient de pratiques traditionnelles de justice que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Des travaux ont montré que les Maoris, les Inuits, les Navarros, et même dans notre société française, il y avait des mécanismes de régulation des conflits, sans forcément passer par un juge, sans forcément passer par une autorité, où les personnes trouvaient par elles-mêmes des solutions. Et donc, dans les années 70, il y a des travailleurs sociaux aux États-Unis qui ont essayé d'organiser des rencontres entre des personnes, des jeunes et des victimes qui est de dégradation dans une rue. C'est l'expérience de Kitchener en Ontario. Et qui, après, a petit à petit essaimé. On a retrouvé des expériences aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Finalement, petit à petit, un peu partout dans le monde, en Europe, ça s'est développé. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un peu une explosion à l'orée des années 90. Et puis, petit à petit, c'est venu en France. On a des premières pratiques qui datent des débuts des années 80, du milieu des années 80 en France, à travers la médiation pénale et la réparation pénale à l'égard des mineurs. Et puis c'est vrai que on n'est pas allé beaucoup plus loin. C'était des alternatives aux poursuites. C'était ce qu'on appelait la troisième voie. Pour les petites infractions, on orientait les personnes vers ce type de solution. Et souvent, parfois, ça pouvait être perçu comme éviter le procès. Alors, ce qui est parfois une bonne chose. Hein.
Alors, justement, est-ce que vous pouvez faire cette précision ? C'est un complément de la justice pénale. Le fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative, Robert Cario, insiste beaucoup sur ce point. Est-ce que vous pouvez dire ce que ça veut dire ?
C'est ça, absolument. C'est vrai que là, maintenant, on a apporté une autre approche. C'est-à-dire en considérant que même pour des infractions extrêmement graves, comme ça peut être le cas dans le petit reportage qui est passé juste avant, puisque là il s'agissait d'infractions très graves, puisque c'est l'expérience de Poissy où il s'agit d'une maison centrale, donc pour des infractions des personnes condamnées à plus de 10 ans d'emprisonnement. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter un complément à la justice. Le procès pénal vient régler les conséquences immédiates de l'infraction. On vient indemniser la personne victime, on va sanctionner l'auteur reconnu coupable. Mais ça répond pas forcément à toutes les questions, comme je disais tout à l'heure, sur le plan personnel, familial, social, culturel. La justice restaurative vient apporter ce complément en termes de répercussions, où on va vraiment permettre d'aborder des questions beaucoup plus vastes autour des personnes, et ça va apporter ce complément qui manque pour répondre à toutes les attentes que les personnes peuvent avoir à l'égard de la justice. La justice, c'est une régulation du conflit qui va au-delà de simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé et sanctionner.
Alors, on va donner un peu la parole à Pierre-Yves Révillon. Donc, vous êtes ancien aumônier de prison. Ça a été aumônier de prison pendant 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour commencer, comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
Alors, je vais vous dire, j'ai vécu une expérience de justice restaurative il y a quelques années, dans un tout autre contexte. À l'époque, je voyageais régulièrement en Afrique du Sud. C'était dans les années 90, au moment où Nelson Mandela, président de l'Afrique du Sud, avait confié à Desmond Tutu, archevêque du Cap, la responsabilité de présider une commission Vérité et réconciliation, qui avait pour but de mettre en vis-à-vis les personnes qui avaient commis des crimes sous l'apartheid et des victimes. C'est un processus extraordinaire qui a duré 3 ans. Il y a au total 7124 demandes qui ont été formulées d'aveux par des personnes qui avaient commis des crimes et qui rencontraient des victimes. Et alors, juste un petit exemple pour vraiment illustrer cette expérience extraordinaire. Comme je passais des soirées à l'hôtel, les audiences étaient retransmises en direct à la télévision. télévision, donc j'ai suivi des heures d'audience, et il y a eu des scènes extraordinaires, et il y en a une qui m'a vraiment énormément frappé, c'est celle où on voyait un policier de la police anti-apartheid, qui est venu donc avouer qu'il avait torturé et tué des jeunes manifestants. Il a donné tous les détails, parce qu'il fallait qu'il donne tous les détails pour obtenir soit une amnistie, soit un jugement, donc il y avait une prise de risque pour lui. Et à la fin, il a commencé à parler du fait que depuis plusieurs années, il ne pouvait pas vivre avec ça. Il avait un mal-être extraordinaire et il rêvait de pouvoir peut-être se reconstruire. Et à ce moment-là, il y a une femme dans la salle qui a demandé à prendre la parole, une vieille femme noire qui est venue au micro, qui a dit « Mais j'ai reconnu, c'est mon fils, c'est mon fils ». Et à ce moment-là, l'homme s'est mis à pleurer. Et elle s'est approchée de cet homme en pleurant et elle l'a pris dans ses bras. Alors c'est un exemple absolument incroyable qui a tourné en boucle sur toutes les télévisions sud-africaines et qui illustrait bien le titre de la commission « Vérité et réconciliation ».
Et alors voilà. Vous, dans votre pratique d'aumônier, est-ce que vous en avez entendu parler quelques années après avoir commencé? Vous avez dit « Mais mon Dieu, c'est formidable, il faut que je trouve à le faire connaître ou... ».
Alors c'est pas mal d'années après que je suis devenu aumônier de prison, il y a 8 ans environ. Et effectivement, très vite, j'ai vu que la justice pénale classique telle qu'on la vivait n'était pas évidente pour faire un travail d'aumônier. Et je me suis un peu interrogé sur ces questions-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que les aumôneries de prison, notamment catholiques et protestantes, étaient impliquées de longue date dans cette démarche, en lien avec les personnes qui construisaient ce processus, et même au moment où cette disposition a été inscrite dans la loi pénitentiaire de 2014.
Alors, j'explique pour les auditeurs, pour faire un peu de pédagogie, on essaye de présenter à gros traits et puis de montrer comment c'est arrivé en France. Et dans la deuxième partie, on rentrera dans le détail de la démarche. Pierre, vous disiez à l'instant que dans votre travail d'aumônier, vous avez vu rapidement les limites et que la justice restaurative, si j'ai bien compris, vous est apparue comme un élément de réponse clé. Est-ce que vous pouvez dire ce à quoi vous faisiez face, qui étaient des difficultés ou des impasses, et où vous vous êtes dit que la justice restaurative pouvait ouvrir un chemin justement formidable?
Un aumônier de prison, il va en détention pour rencontrer des personnes détenues. Alors, il faut savoir que nous n'avons accès à aucun dossier. Nous ne savons pas, quand on va rencontrer pour la première fois quelqu'un, ce qu'il a fait. On sait que, moi je travaillais surtout en maison d'arrêt, donc des prévenus qui sont en attente de jugement, qui sont en examen, et qui bénéficient donc de la présomption d'innocence jusqu'à leur jugement. Nous n'avons pas non plus de contact avec les victimes, c'est interdit. Donc c'est pour poser un petit peu le tableau. Donc on rencontre des personnes qui le demandent, qui veulent rencontrer un aumônier pour parler, pour échanger, etc. Et évidemment, la question de leur affaire, elle est un peu sous-jacente, même s'ils n'en parlent pas tout de suite. Moi, j'ai rencontré un peu trois cas de figure, si vous voulez. Vous avez des personnes qui, à la première rencontre, vont tout vous déballer. Voilà ce que j'ai fait, etc., etc. Puis ils vont, voilà, on va essayer de travailler là-dessus. Il y en a d'autres qui vont être dans une révélation progressive, plus ou moins subliminale, variable, à géométrie variable, parce qu'ils font une démarche intérieure de prise de conscience, d'hésitation, etc. Et qui sont souvent un peu inhibés par le processus qui les attend, par le contexte aussi de la société qui est très, très violente vis-à-vis des détenus, vis-à-vis des criminels, etc. Et puis un troisième cas de figure, c'est le déni. Le déni total ou partiel, parce que la culpabilité et la honte que les gens ressentent est tellement forte qu'ils sont obligés d'occulter ce qu'ils ont fait.
Alors je reviens à ma question, en quoi la justice restaurative pouvait vous a intéressé et pouvait compléter votre...
Alors elle m'a intéressé comme une étape d'après, si vous voulez. Nous, on est dans un processus où on rencontre des personnes qui commencent à essayer d'envisager ce qu'ils ont fait, de regarder ce qu'ils ont fait. Et moi, quand j'ai entendu parler la justice restaurative, je me suis dit, ça, c'est l'étape d'après.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas leur suggérer ce type de démarche?
On en parle. Moi, si. J'ai suggéré plusieurs fois avec des personnes qui avaient déjà fait tout un chemin l'existence de cette justice, surtout quand ça a été gravé dans le marbre de la loi. Et j'ai presque toujours entendu un accueil très réceptif. Alors après, ça ne nous appartient pas d'être impliqués dans ce processus en prison, bien entendu. C'est une étape ensuite qui peut se faire d'ailleurs avant ou après le jugement. Hein. C'est assez ouvert, je crois. Mais M. Seyous pourra le préciser dans les détails. Mais je considère, si vous voulez, avec le recul, que c'est un peu une première étape, une préfiguration de ce qui pourrait ensuite se passer.
Benjamin Sayous, avant qu'on parle de son développement en France, est-ce que vous pouvez quand même prendre un exemple parmi probablement tous ceux que vous avez qui illustrerait peut-être à une plus petite échelle que celle citée par Pierre-Yves Révillon les bienfaits de cette démarche de la justice restaurative, même si on a pu entrevoir ces bienfaits dans le court extrait donné au début de cette émission.
Les bienfaits de la justice restaurative...
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple assez... Un exemple, juste.
Alors, tout simplement, il y a eu à Valence, il y a eu une expérience là de médiation directe. Parce qu'il faut savoir que la justice restaurative, c'est pas simplement des rencontres indirectes entre victimes et condamnés qui ne sont pas concernés par la même infraction. Ça peut être aussi la rencontre entre la victime immédiate et l'auteur immédiat de la même infraction. Et c'est vrai que là, par exemple, à Valence, il y a eu cette expérience de médiation directe, et on a vu une personne victime qui avait véritablement pu trouver les réponses immédiates à ces questions. Il y avait plein d'incertitudes. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des faits, parce que pour l'instant qu'une seule expérience, mais vraiment une personne victime qui a pu avoir réponse à ces questions et qui, pour laquelle il y a eu une nouvelle ouverture dans sa vie. Souvent, les personnes se retrouvent un peu coincées dans la victimisation, coincées dans ce qu'ils peuvent vivre, ne pas voir d'horizon. Et c'est vrai que là, la justice restaurative, en ayant des réponses, on peut passer à autre chose. Je donnais aussi un autre exemple dans la situation de rencontre condamnée-victime. Vous avez une victime qui avait été victime, puisqu'on avait organisé des rencontres en matière de viol. Donc ce sont des rencontres des victimes de viol qui ont rencontré des auteurs d'agressions sexuelles. Et là, vous avez eu des personnes qui avaient des femmes qui avaient peur aussi de rencontrer des hommes à l'avenir, parce que dans ces situations, l'homme peut paraître comme un agresseur potentiel. En découvrant véritablement qui est cet auteur, qui est cette personne qui a pu commettre l'infraction, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Ça permet aussi de se rassurer également. On voit dans toutes les rencontres qui peuvent avoir lieu, les personnes victimes ont moins peur du crime, moins peur d'être agressées. Vous avez eu encore des rencontres en matière de violence, vous aviez des personnes victimes qui avaient peur de sortir de chez elles suite à des agressions de type vol à l'arraché sur une personne âgée, par exemple, qui on avait volé son sac à main, elle avait aussi subi des violences volontaires. Cette personne avait peur de sortir de chez elle. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle. À l'issue de ces rencontres, elle a pu enfin quitter son domicile, reprendre une vie normale. Du même côté, pour les auteurs, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ce sont des auteurs qui, parfois, en détention, se trouvent en impossibilité de s'accorder le droit de sortir.
Alors, donc des personnes... Si vous permettez, oui. Benjamin Sayous, c'est pas pour vous couper, mais j'aimerais juste qu'on fasse une première pause musicale peut-être, et puis après on reviendra, comme je l'avais dit, là je demandais surtout un exemple, on reviendra sur le détail des bienfaits à la fois pour les victimes, pour les agresseurs, et puis pour les professionnels. Quelques mots juste en fait sur son développement en France. J'ai lu que 25 services pénitentiaires en France d'insertion et de probation, soit un quart d'entre eux seraient engagés dans des programmes de justice restaurative, et vous, qu'à l'Institut français pour la justice restaurative, vous multipliez la formation de professionnels. Vous pouvez nous dire un petit peu votre taux de croissance d'une certaine manière?
Actuellement, pour vous donner une idée, en 2014, on avait organisé 3 formations. En 2017, on en a organisé 39. On a formé plus de 1200 professionnels. Donc il y a une forte croissance. On voit qu'effectivement, nous, on ne fait pas que de la formation. D'ailleurs, on accompagne également les programmes. On les aide à mettre en place ce dispositif, à construire leur projet et à conduire ce projet dans la mise en œuvre de ces mesures. Et ces formations qu'on organise sont aussi réalisées en partenariat avec la Fédération France Victimes, donc la Fédération des associations des victimes, et l'École nationale de l'administration pénitentiaire qui forme les services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire.
Voilà, et puis dernière précision avant cette première pause promise, c'est donc la loi d'août 2014, loi dite Taubira, donc de réforme de la justice, qui ouvre grand les portes, on va dire, du système judiciaire français au développement de cette justice restaurative. On fait une première pause et puis on vous retrouve. on retrouve nos deux invités pour continuer à expliciter ce qui se vit dans le cadre de cette justice restaurative. La découverte de la justice restaurative, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église ce matin et son thème, avec autour du plateau Benjamin Sayous, qui est donc docteur en droit et directeur de l'Institut français pour la justice restaurative, et Pierre-Yves Révillon, qui est ancien aumônier de prison. Je propose, après cette présentation de ce qu'est la justice restaurative, donc on rentre un petit peu dans le détail et qu'on essaye alors d'être le plus pédagogue possible, de donner peut-être pour commencer quelques chiffres quant aux résultats de cette démarche, d'essayer d'expliquer donc comment chacun le vit et de bien expliciter la manière dont ça se passe et puis peut-être donner quelques raisons de son succès. Vous détaillez ça sur votre site internet, Benjamin Sayous, entre autres. Vous dites que la crise pénale moderne joue en votre faveur. Alors si on commence par quelques chiffres, j'ai trouvé ce chiffre qui paraît énorme, 30%, il y aurait 30% de récidive en moins pour les participants par rapport à ceux qui ne participent pas à ces programmes de justice restaurative. J'imagine que vous avez d'autres chiffres, mais quels sont ceux que vous avez l'habitude de donner pour montrer en dehors des bienfaits pour les personnes impliquées, enfin les fruits que ça peut avoir pour l'ensemble du système judiciaire français?
Absolument. C'est vrai que ces chiffres, ce sont des chiffres issus d'études réalisées à l'étranger, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore suffisamment de recul sur la pratique française, mais qui sont réalisées dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un groupe de contrôle.
Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Parlez bien devant le micro, voilà.
Oui, vous m'entendez mieux?
Oui, c'est mieux, allez-y.
Oui. Donc avec un groupe de contrôle, donc c'est-à-dire des personnes qui suivent le même parcours pénal, hein, dans les mêmes conditions, et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les personnes qui participent à des mesures de justice restaurative récidivent 25 à 35% en moins selon les programmes que des personnes qui ne l'ont pas suivi. Et par contre, quand on parle d'autres mesures, il y a plusieurs types de mesures de justice restaurative qui sont parfois plus orientées sur l'évitement de la récidive, telles que les cercles de soutien à une responsabilité. On constate jusqu'à 6 fois moins de récidive que des auteurs qui n'ont pas participé à ce type de mesures de justice restaurative. Donc on voit vraiment des effets assez marquants. De la même manière, on constate des situations de parcours qui sont faciliter, je dirais. Les professionnels nous témoignent, et ça on peut mesurer véritablement en France, des professionnels qui nous disent bah, c'est plus facile d'engager ces personnes, notamment les auteurs, dans un parcours de réinsertion. C'est plus facile de dialoguer avec eux, c'est plus facile d'intervenir. Parce qu'ils sont véritablement inscrits dans une démarche volontaire. Alors, et c'est ça l'intérêt aussi de la justice restaurative.
J'ai trouvé aussi sur votre site les chiffres suivants. Donc pour les victimes, la mesure participe à la compréhension du passage à l'acte pour 31%. Mmh. Et pour les auteurs des actes, elle contribue à une meilleure compréhension des victimes à 78%. Alors c'est pour le moment des chiffres à moduler. Commençons par les bienfaits pour les victimes. Puisque peut-être pouvez-vous réexpliquer un peu quelle est la philosophie de la justice restaurative. Est-ce que c'est au départ conçu, on va dire, d'abord pour les victimes? En tout cas, j'ai cru comprendre qu'on met en avant d'abord l'importance de l'atteinte aux personnes et aux relations interpersonnelles dans cette justice, qui primerait presque à l'atteinte qui a été faite à l'autorité de l'État.
L'idée fondamentale de la justice restaurative, c'est que, oui, certes, l'infraction est la violation d'un interdit, donc une violation d'une règle de l'État. Mais avant tout, c'est aussi une atteinte aux personnes. C'est une personne qui est touchée parfois dans sa chair, en tout cas, ou alors dans ses biens. C'est une personne qui commet l'infraction. Donc c'est toujours une atteinte aux personnes, un conflit entre des personnes. Et donc l'idée, c'est de redonner aux personnes cette capacité à gérer par eux-mêmes le conflit. L'idée fondamentale de la justice restaurative et de ce dialogue, c'est de dire, bon, les personnes victimes et les auteurs sont les mieux placés pour pouvoir régler justement les répercussions de l'infraction, pour faire que ça ne se reproduise pas. Donc on les place en situation d'être des acteurs, on les place en situation d'être les décideurs de ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire qu'ils vont faire par eux-mêmes le constat des répercussions de l'infraction, vont chercher par eux-mêmes quelles peuvent en être les solutions pour eux-mêmes, ou au bénéfice de l'autre, et notamment de l'auteur au bénéfice de la victime, et ensuite vont être les acteurs eux-mêmes des solutions qui vont être mises en œuvre. Donc c'est véritablement ça la justice restaurative, c'est ce que les Américains appellent l'empowerment, ce qu'on peut qualifier comme une appropriation, un apprivoisement du conflit par les personnes elles-mêmes.
Peut-être deuxième précision avant qu'on détaille les bienfaits pour chacun, c'est la manière dont ça se passe. Donc j'ai cru comprendre que le rythme était modulable, il peut être hebdomadaire ou bimensuel, etc. C'est donc un groupe d'auteurs, soit de victimes et de personnes agressées, et donc soit des personnes impliquées dans la même affaire, vous avez l'air de dire, soit en fait qui ne sont pas impliquées dans la même affaire. Ça c'est le cadre des rencontres, c'est ça?
C'est ça. Il peut y avoir il y a différents types de mesures de justice restaurative. Soit ce qu'on appelle de la médiation, soit ce qu'on appelle des rencontres condamnées victimes ou rencontres détenues victimes lorsqu'elles ont lieu en prison. Et donc, ça va prendre différentes formes en fonction des attentes de chaque personne. Est-ce que les personnes victimes souhaitent rencontrer l'auteur de l'infraction ou est-ce qu'elles ne souhaitent pas le rencontrer? Est-ce que l'auteur souhaite impliquer des membres de sa famille ou pas, etc. Tout cela, on va adapter en fait en fonction des besoins des personnes, en fonction de leurs attentes, de manière à leur permettre une rencontre dans les meilleures conditions, tout cela étant bien sûr encadré par un professionnel.
Donc si on commence par les victimes, rapidement en préparant l'émission, j'ai noté deux, trois choses, entre autres un article donc, du journal La Croix que m'a fait suivre Pierre-Yves Révillon, qui date de janvier 2016, où une personne victime, il dit la chose suivante, en fait les victimes ont elles aussi pris perpète, alors là c'est probablement des situations extrêmement graves, hein. Et encore moins, c'est un détenu qui parle, en effet les victimes ont elles aussi pris perpète, et encore moins je sortirai de prison un jour, peut-être que leur souffrance, elles, seront sans fin. Ce qui ressort dans toutes les témoignages ou vidéos que j'ai vues, c'est que la victime pourrait être comme en fait le grand oublié, étonnamment, du système judiciaire français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Benjamin Carius?
C'est vrai qu'effectivement, pendant très longtemps, la victime a été la grande oubliée. Le procès pénal était avant tout destiné à permettre à la société de juger celui qui était suspecté d'être le coupable. On condamne le coupable pour protéger la société. On s'est rendu compte après qu'il fallait quand même aussi s'intéresser un petit peu à l'auteur de l'infraction. Donc, on a développé des mécanismes qui permettaient d'individualiser la peine, etc. Mais à chaque fois, là, on a oublié la victime. On ne s'est pas toujours posé la question. Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle doit être présente au cours du procès pénal? Alors, elle peut être présente, mais on l'écoute pas forcément. Elle peut pas forcément s'exprimer. Tout cela a fait que on a considéré que la victime était un peu la grande oubliée. Alors, la justice restaurative, elle a servi aussi à permettre cette ouverture aux personnes victimes. Après, il faut bien comprendre que la justice restaurative, pour autant, n'est pas faite uniquement pour les victimes. Elle n'est pas uniquement destinée à permettre à la victime d'obtenir ce qu'elle souhaite, c'est aussi dans l'intérêt de l'auteur. L'idée, c'est que ça permette à chacun, la victime, l'auteur, la communauté, sont tous au centre du dispositif et tous au centre de la justice restaurative.
Si on doit préciser un tout petit peu pour la victime, pardon, je vous embête, mais parlez bien devant votre téléphone, parce que parfois on vous entend pas très bien. Évidemment, on n'a pas le temps d'énormément détailler pour chacun, mais le premier bienfait pour les victimes, quel est-il? Robert Cario, donc le fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative, donc que vous dirigez, dit que cette justice permet de se redécouvrir comme personne. Est-ce la première vertu et qu'est-ce que veut dire cette phrase en fait pour le côté victime, on va dire.
Si vous voulez, il y a une personne victime qui participait à des rencontres qui a exprimé ça de façon très 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 marquante. Lorsque dans les rencontres, lorsque vous avez une personne, les personnes victimes généralement s'installent en premier, puisque en détention on va faire sortir de cellule les détenus en même temps, etc., ils arrivent tous ensemble. Et lors de cette première rencontre, la personne victime a exprimé le fait en disant c'est des êtres humains. Et c'est vrai que c'est le constat, il est là, c'est que on va à travers la justice pénale a tendance à placer les personnes, à cristalliser les personnes dans l'acte subi ou l'acte commis. L'auteur de l'infraction, c'est celui qui a commis le vol. La victime, c'est celle qui a subi le vol. Tout est toujours fonction de l'infraction qui a été commise. Dans la justice restaurative, l'infraction est certes importante, mais on va au-delà de l'acte commis, on va chercher avant tout à voir quelle est cette personne en face de moi. Je discute avec elle, j'échange avec elle, je parle, je m'exprime, la personne comprend, écoute, répond à mes questions. Ça me permet aussi de voir qu'ensemble, peut-être qu'on peut redécouvrir cet espace dans lequel on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger. Il ne s'agit pas forcément de se réconcilier, mais tout simplement de partager cet espace, ce vivre ensemble, qui est aussi celui de la communauté, de la collectivité. Lorsque les personnes sont amenées à sortir de détention, par exemple, à se réinsérer, il y a aussi tout cet enjeu de partage de l'espace social qui doit être important. Et donc, c'est vrai que la justice restaurative, elle permet à chacun d'accéder à cette compréhension, à cette vision du fait que on a des personnes en face de nous, des personnes qui peuvent aussi les condamner, peuvent aussi souffrir. Ils ont aussi des problématiques qui viennent mailler leur parcours. Et tout cela fait partie de cette compréhension au-delà d'un acte commis à un instant T.
Donc dans l'exemple que vous citez, que cite aussi Robert Cario dans une vidéo que j'ai vue, cette première rencontre aussi, semble-t-il, ce qu'il y avait de frappant, c'est que les personnes se sont levées quand elles sont rentrées dans la pièce et elles se sont serrées la main et c'était assez inattendu. Alors Pierre-Yves Révillon, si on doit cette fois aller côté détenu, moi ce qui m'a frappé en préparant l'émission, c'est en fait de découvrir que quand on est détenu, on peut en fait passer peut-être pas tout son temps de prison, mais une bonne partie de son temps de prison, en se voyant soi-même comme une victime et en ayant du mal à peut-être en fait à prendre conscience quoi de l'acte qu'on a posé, c'est ça?
Alors effectivement, il arrive un phénomène de victimisation, mais qui est lié peut-être plutôt aux conditions carcérales. Parce qu'en fait, une personne qui est en détention provisoire ou en détention qui purge sa peine, la peine c'est la privation de liberté, point. Mais quand il est dans un système carcéral qui dérive un petit peu, vous en avez parlé en introduction, que les conditions de détention sont mauvaises, qu'au lieu d'être seul dans cellule, ils sont à deux ou trois, etc., il va avoir tendance à se victimiser, surtout quand il n'a pas encore été jugé, parce qu'il est en détention provisoire et il est présumé innocent. Donc effectivement, ça ne facilite pas la prise de conscience de sa propre responsabilité dans l'affaire. Et je voudrais rebondir sur la question des victimes. Parce que, en fait, On encense souvent des personnes quand on parle avec des gens à l'extérieur sur ce qu'on fait en prison en tant qu'aumônier, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais vous êtes du côté des agresseurs ». Et nous, on leur répond à chaque fois « Non, on n'est pas du côté, on est aux côtés d'eux ». Nous, on est neutre, si vous voulez, dans le système. On est là, c'est un peu notre mission, d'aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont fait, à faire exister les victimes auprès d'eux, parce qu'ils n'en parlent, au début, ils n'en parlent jamais des victimes. Soit parce qu'ils sont dans un déni par rapport à ce qu'ils ont fait, soit parce qu'ils ont une honte terrible et une culpabilité énorme. Donc à un moment donné, il faut travailler progressivement pour faire exister la victime. Et en faisant exister la victime chez le détenu, on est, je pense, au début de cette amorce de justice, d'une possible justice restaurative, d'une possible rencontre avec des victimes. Mais tout le temps que le détenu n'a pas fait cette première démarche, c'est trop tôt.
Benjamin Sayous, ça paraît fou, mais en fait, le système judiciaire français, pardon de la naïveté de ma question, hein, mais s'il n'y a pas de démarche de justice restaurative ou si on ne rencontre pas un aumônier, c'est-à-dire si on n'en fait pas la demande, on peut passer en fait des années en prison sans que nous soit proposé de faire un chemin personnel pour essayer de comprendre la réalité de l'acte que l'on a commis et donc un chemin de, quoi, de vérité avec soi ou de réconciliation avec soi-même.
Alors maintenant, c'est différent. Maintenant, on va considérer que en impliquant justement l'administration pénitentiaire et donc à la fois celle qui intervient en détention et celle qui intervient en milieu ouvert pour tous ceux qui sont condamnés à des peines telles que du sursis avec mise à l'épreuve, etc. On va avoir la possibilité de mailler, je dirais, un petit peu les prises en charge et de permettre à ces agents de probation ou à ces agents pénitentiaires d'orienter les personnes vers ce type de dispositif de justice restaurative. Mais sinon, c'est vrai qu'effectivement, au-delà, il y avait comme un monde assez cloisonné entre l'espace des victimes et l'espace des auteurs. Alors, parfois, il est nécessaire. Hein, on condamne des auteurs à une interdiction de rencontrer la victime, parce qu'il s'agit aussi de protéger parfois. Mais c'est vrai que lorsque l'on peut mettre en place une rencontre sécurisée, et c'est bien là tout le but de la justice restaurative, c'est quand même très intéressant parce que ça va donner toute une nouvelle dimension au parcours de chacun. Nous, ce qu'on constate beaucoup, c'est que au départ, les professionnels de la justice étaient parfois un peu réticents, considérant que les victimes et les auteurs n'avaient rien à faire ensemble, ne pouvaient rien s'apporter mutuellement, ça pouvait même être dangereux. Et puis pourtant, petit à petit, chacun nous disait, il y a des personnes victimes qui cherchent à rentrer en détention, à rencontrer l'auteur au parloir. Il y a des auteurs qui envoient des lettres, qui cherchent à envoyer des lettres aux personnes victimes, parce qu'ils se posent des questions, ils veulent savoir comment ça se passe pour elles, etc. Eh bien, la justice restaurative, c'est simplement répondre à cette attente qui était latente en réalité, personne n'exprimait, personne ne voulait entendre, et qui finalement trouve à s'exprimer maintenant dans un parcours sécurisé. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si une personne victime rencontre une personne auteur sans que ce soit sécurisé, aussi bien sur le plan physique que psychique, ça pourrait mal se passer, ça pourrait être parfois pire pour les personnes. Là, en faisant intervenir des professionnels formés, en garantissant un accompagnement tout au long du dispositif, tout au long de ce processus qui parfois peut être long, en préparant, en anticipant la rencontre, on peut vraiment sécuriser l'espace de dialogue. Et là, ça va porter des fruits tout à fait intéressants.
Alors, on va pas tarder à faire une deuxième pause musicale. On aurait pu dire d'autres choses, par exemple, donc tous les bienfaits côté professionnel du monde judiciaire, mais vous l'avez évoqué un petit peu au fil de vos réponses. Pierre-Yves Révillon, peut-être, est-ce que la justice n'est pas de plus en plus, grâce à la justice restaurative, fidèle à ce que prévoit la loi? C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en fait, ce que dit la loi, entre autres, donc la loi pénale du 15 août 2014, quand à la finalité, on va dire, de la sanction et du système judiciaire?
Alors effectivement, c'est la définition qui a évolué dans les différents textes de loi nous a beaucoup intéressés. On a travaillé un peu en équipe d'aumônerie sur ce texte. Je pense que c'est intéressant de lire le petit article donc, de la loi du 15 août 2014 concernant la définition de la peine. « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions » et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, virgule, la peine a pour fonction, premièrement, de sanctionner l'auteur de l'infraction, deuxièmement, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Alors, nous, on l'a décrypté comme ça. Il y a en fait 5 objectifs à la peine. Le premier, c'est protéger la société contre les délinquants dangereux. Ça, tout le monde l'entend et tout le monde le demande. Enfin, beaucoup de gens le demandent, en tout cas. Sanctionner les coupables en fonction de la gravité de leur acte. Réparer les torts causés aux victimes et à leurs proches. Ça, c'est le respect des intérêts de la victime. Préparer la réinsertion sociale du condamné à sa libération, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un détenu, même pour une longue peine, il va sortir un jour, et prévenir ainsi la récidive. Alors qu'est-ce qu'on constate ? C'est que actuellement tout le système pénal traditionnel et le système qui est un petit peu en déshérence en ce moment, etc., s'est concentré sur les deux premiers objectifs. Le fameux « surveiller et punir » qu'avait mis en exergue Michel Foucault dans son livre sur les prisons. Mais les trois autres aspects, réparer les torts, préparer la réinsertion, prévenir la récidive, sont moins pris en compte, souvent faute de moyens et de difficultés. Et là, ces trois points-là concernent la justice restaurative, parce qu'on voit bien qu'elle a quelque chose à apporter pour faire progresser ces points-là.
Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, et puis après on va vous retrouver, peut-être pour finir de préciser les différences, par exemple, entre cette démarche et ce que peut être la médiation, la thérapie ou les chemins de pardon, et puis aussi éclairer ça au regard de la foi chrétienne. Qu'est-ce que la foi chrétienne peut dire de cette démarche de la justice restaurative ?
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte de la justice restaurative, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église ce matin, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient. Et autour du plateau, Benjamin Sayous, qui est directeur de l'Institut français pour la justice restaurative, et Pierre-Yves Révillon, qui est ancien aumônier de prison. Cette démarche donc inédite qui se développe en France de plus en plus, et ce depuis la loi, particulièrement la loi donc d'août 2014, dite loi Taubira. Dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais que certains laisse entendre que cette justice restaurative pourrait inaugurer une nouvelle manière de rendre justice. Benjamin Sayous, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu des visions, on va dire, minimalistes ou maximalistes sur ce sujet. Alors, ceux qui sont maximalistes, à quelle justice, de quelle justice rêvent-ils ?
Bah, c'est toujours assez délicat. D'une justice parfois qui pourrait être totalement remplacée par des débats entre personnes qui pourraient considérer que la justice restaurative devrait remplacer la justice pénale, faire une justice où on va développer des sanctions qui seront uniquement restauratives, alors avec tout un questionnement, parce que si vous voulez, la justice restaurative, fondamentalement, pour qu'un espace, cet espace de dialogue puisse advenir, il est essentiel que les personnes soient volontaires. On ne peut pas envisager que les personnes dialoguent s'ils ne sont pas d'accord pour dialoguer. Donc, dans ces conditions, il me semble extrêmement difficile d'imaginer que la justice restaurative puisse remplacer complètement le système de justice pénale. C'est dans cette perspective que nous, on a tendance à considérer que la justice restaurative doit venir en complément de la justice pénale, puisque parfois, ça peut s'avérer nécessaire d'imposer des décisions. La justice restaurative ne pourra jamais remplacer le système de justice pénale. Par contre, après, on peut imaginer que la justice restaurative inspire des adaptations dans ce système, d'une justice rendue toujours par des juges, mais qui vont essayer d'être le plus possible à l'écoute des personnes victimes, des personnes auteurs, permettre des échanges entre eux au cours du procès pénal, permettre, faciliter des espaces de dialogue tels que la justice restaurative tout au long de la procédure pénale, comme c'est l'esprit de la loi, hein, puisque je rappelle, la loi précise, hein, la loi Taubira précise que les mesures de justice restaurative sont disponibles dans toute procédure pénale à tous les stades de la procédure.
Et ce
du moment de l'infraction commise jusqu'à la fin de l'exécution de la peine, donc pendant le jugement, à l'instruction, à tous les stades. Donc c'est véritablement essayer de distiller le plus possible ces opportunités de dialogue à tout moment.
Pierre-Yves Révillon, vous me faisiez remarquer pendant la pause qu'on est quand même sur une radio chrétienne, donc il faut éclairer ces éléments d'actualité. C'est vrai qu'on peut pressentir qu'il y a là quelque chose il ne s'agit pas de s'arroger la démarche, hein, mais qui est conforme à l'esprit de l'Évangile. On sort de la loi du talion et on entrevoit même peut-être quelque chose de la justice qui est celle de Dieu. Alors comment vous éclaireriez cette démarche?
Alors effectivement, la loi du talion, c'est celle qui sous-tend un peu la justice rétributive, comme on dit, la justice pénale classique. Ça a été quand même un progrès, parce qu'avant, c'était la loi de la jungle. On est passé à la loi du talion, c'est dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, Jésus a repris tout ça d'une autre manière, en faisant apparaître que ce qui est jugé, s'il y a jugement ou condamné, c'est pas l'homme qui est jugé, c'est l'acte. On met l'homme en face de ses responsabilités en considérant que la faute ou le péché en langage chrétien, c'est avant tout la rupture d'un lien. C'est défini comme ça. C'est pas d'abord la transgression d'une règle ou d'une loi, c'est la rupture d'un lien avec le frère, d'un lien avec l'autre. Le bon exemple, c'est Caïn et Abel. Voilà. Et donc, la rupture de ce lien, il faut le réparer. Donc on est déjà dans une logique de justice restaurative, et ça on peut le lire dans les textes bibliques. Je crois savoir d'ailleurs que le fondateur américain Howard Zaire était ménonite, hein, c'était, donc il était baigné de culture biblique, etc. Donc je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens et les aumôneries chrétiennes, catholiques et protestantes se sont très vite reconnus dans cette démarche, qui leur apparaît profondément évangélique. Alors attention, pas de récupération. La justice restaurative, telle qu'elle est définie par la loi, etc., elle est parfaitement autonome. Il n'est pas question de la récupérer de façon religieuse. Mais nous, on y trouve quand même des accointances, en quelque sorte, avec la foi chrétienne. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire passer auprès des personnes détenues que nous accompagnons.
Est-ce que vous avez des exemples dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui disent justement l'importance d'abord de la restauration de ce lien ?
Il y a un bel exemple, c'est l'épisode de la femme adultère. Vous avez Jésus qui est au temple, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et lui disent, la loi de Moïse dit que cette femme doit être lapidée à mort. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Jésus, au début, ne dit rien du tout. Puis à un moment, il leur dit, cette phrase extraordinaire, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils s'en vont tous les uns après les autres, en commençant par les plus vieux. Ce texte est vraiment extraordinaire. Et il reste seul avec la femme et il lui dit, va, moi non plus, ils sont partis, personne ne t'a condamné apparemment, moi non plus, je ne te condamne pas. Il ne dit pas qu'il lui pardonne, il dit qu'il ne la condamne pas. Va et ne pêche plus. Le va et ne pêche plus, on peut l'interpréter comme fais une démarche maintenant de réparation, de restauration. Tu as lésé quelqu'un, etc. Il faut rentrer dans cette démarche de restauration, de reconstruction de toi-même et des liens que tu as brisés. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Et puis également, un autre exemple peut-être, quand les personnes détenues sont au début du processus, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qui s'est passé à travers toute leur histoire. Donc ça, c'est un travail assez long. C'est un peu la démarche du fils prodigue, qui à un moment décide de revenir de recréer le lien, de retourner vers son père, etc. Donc ça, c'est profondément évangélique, profondément biblique. Et je pense que pas mal de personnes détenues se reconnaissent dans ce type de démarche. Et chaque fois que moi j'ai parlé à des personnes qui avaient déjà fait un peu de chemin sur cette possibilité de la justice restaurative, ils ont tout de suite accroché avec ça. Ils disent « mais ça a du sens ». Ça a beaucoup plus de sens que simplement « je suis là pour payer ». Puis quand j'aurai payé, je vais sortir et moi je serai encore tout abîmé et ma victime aussi.
Benjamin Sayous, pour finir, il y a une phrase qui est sur la devanture de votre site. Rien n'est plus fort qu'une idée dont le moment est venu. Phrase de Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour finir, pourquoi, à votre avis, le moment est venu de la justice restaurative et quelle justice on peut imaginer dans 5-10 ans après cette petite révolution, ce petit virus de l'intérieur, virus au bon sens, au sens positif cette fois.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, je pense que beaucoup de professionnels de la justice se sont rendus compte qu'une approche qui consistait uniquement à punir, à sanctionner, parfois la plupart du temps à travers l'emprisonnement, un emprisonnement qui soit ferme ou avec sursis, mais toujours de l'emprisonnement, était une réponse qui manquait peut-être de vision à long terme, qui ne laissait pas forcément autant de possibilités que on pourrait le souhaiter, qu'il était nécessaire de davantage impliquer la communauté, la collectivité, tout un chacun autour de cette réalité qui est que le crime nous concerne tous, que l'on soit victime, auteur ou victime ou auteur potentiel, proche. Et donc, on peut espérer une justice à 5-10 ans, plus peut-être, qui intègre davantage cette justice restaurative, où chacun va avoir la possibilité d'accéder à cet espace de dialogue pour construire, ces solutions pour l'avenir, en considérant que sanctionner le passé est peut-être important pour mettre un terme à un conflit, mais il est aussi important d'essayer de se donner la possibilité, lorsque c'est possible, bien sûr, encore une fois, lorsque les personnes sont volontaires, etc., qu'on reconnaisse les faits, de tout simplement chercher à faire mieux, à faire que ça ne se reproduise pas et construire toutes les solutions, toutes les possibilités pour que victimes, auteurs, collectivités puissent ensemble travailler d'une même main à un espace de vivre ensemble qui soit satisfaisant pour tous. Donc une justice qui va laisser plus la parole aux victimes, laisser plus la parole aux condamnés, qui va adapter un parcours d'exécution de peine qui va être dans une logique de réinsertion, mais surtout de responsabilisation pour l'auteur. Et la responsabilisation, c'est pas simplement par rapport à l'acte passé, c'est aussi devenir une personne responsable pour l'avenir.
Eh ben merci beaucoup Benjamin Sayou, je vous arrête parce que le temps passe. Je donnerai juste pour finir une information pratique. Donc si vous voulez en savoir plus, un site internet www.justicerestaurative.org. Voilà, et puis merci beaucoup à vous pour cette émission ce matin, et merci particulièrement à Pierre-Yves Révillon. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.